En chanson, un studio et des hommes. 1939. L'industrie du cinéma à Hollywood est depuis les années 1910 extrêmement structurée. Il y a une vraie hiérarchie. Elle fonctionne principalement avec des grands studios dont certains existent encore aujourd'hui. Ces majors, on les appelait comme ça, ont chacune leur spécificité artistique, leur propre vedette sous contrat, leur producteur, leur département de costumes, de décors et de musique. Quand Marlène Dietrich est sollicitée par Universal pour tourner un film, c'est la Paramount, société avec laquelle la star est sous contrat, qui accepte ou non de la prêter à ce concurrent. Le pouvoir d'un patron hollywoodien est énorme. Certains ont contribué, pour le meilleur et pour le moins bon, à la carrière d'un film. Et les relations entre metteurs en scène et studios furent souvent très difficiles. Pour un cinéaste employé par une major, avoir le droit de regard sur le casting, le montage, la musique n'allait pas de soi. Ce furent souvent des bras de fer douloureux. Donc en 1939, la Metro-Goldwyn-Mayer est un des plus importants studios en termes d'infrastructure et de production. Son emblème est mondialement connu, un lion rugissant devenu bien familier. Le studio, dirigé d'une main de fer dans un gant de fer par Louis Mayer, a à son actif de nombreux succès critiques et publics. Il y a la série des Tarzan, les films avec les Marx Brothers, Laurel et Hardy, mais également des comédies musicales. Et deux hommes vont être en charge de cette production du Magicien d'Oz. Mervyn LeRoy, qui est un cinéaste et un producteur, et surtout Arthur Freed. Freed est à la fois un parolier, donc à succès, et un producteur. C'est l'auteur de « Chantons sous la pluie », cette chanson écrite dans les années 20, et qui donnera son titre au film de Stanley Donen et Jane Kelly en 1952. Film qu'Arthur Freed produira, comme les plus grandes comédies musicales hollywoodiennes de Vincente Minnelli, Le Pirate, Brigadoon, tous en scène. C'est lui qui va faire en sorte que Le Magicien d'Oz ne soit pas simplement un beau conte, mais également une comédie musicale, dont les chansons vont entrer dans l'histoire et la mémoire collective. Il va engager Yip Harbour pour l'écriture des textes, des chansons, et Harold Arlen pour en composer la musique. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble. Ils sont alors tous deux, et le resteront, à l'origine de nombreux succès populaires. Freed va par exemple se battre avec le studio pour que la scène dans laquelle Judy Garland chante « Over the Rainbow » ne soit pas coupée au montage. En effet, les dirigeants de la MGM pensaient que cette séquence n'apportait pas grand-chose et figeait l'action, ralentissait un peu le récit. Alors, si certains admettent qu'il existe une doxa qui prône l'efficacité et la cohérence d'un enchaînement d'actions, alors la position des patrons du studio pouvait se comprendre. Comment le public allait percevoir cette coupure de rythme? Le récit se met entre parenthèses. Dorothée se pose et chante pour elle et son meilleur spectateur, le chien Toto. Mais ce que les décideurs n'avaient peut-être pas mesuré, c'est qu'il était impossible de supprimer cette scène, donc cette chanson, sans dénaturer toute une partie de la narration. Car c'est cet instant ouaté, nostalgique, enfantin qui fonde le film, qui annonce ce voyage derrière l'arc-en-ciel. Over the Rainbow est une chanson programmatique. Tout est dedans, y compris le caractère de la jeune héroïne, ses aspirations. Bon, la suite est connue, Over the Rainbow va devenir quasiment un hymne national, c'est la carte d'identité du film et Judy Garland la chantera pendant 3 décennies. La chanson sera reprise maintes fois, plus de 30 films y font référence soit à l'intérieur de la fiction, soit dans leur générique. Le titre deviendra un standard chanté par Sarah Vaughan, Gene Vincent, Frank Sinatra, et Eric Clapton et le pianiste Keith Jarrett la reprendront. Le cinéma a bouleversé et transformé les lieux naturels de la chanson. Bien sûr, il est fréquent que des chansons soient filmées dans des cabarets, des musicals, mais dans de nombreuses comédies musicales, cette justification est évacuée, oubliée. Nous acceptons qu'un orchestre invisible accompagne Dorothée dans son rêve chanté qui va la mener au-delà de l'arc-en-ciel. Alors que de nombreuses comédies musicales étaient prétextes à valoriser des suites de scènes dansées ou chantées, les chansons du Magicien d'Oz ne sont pas là à des fins uniquement commerciales ou illustratives. Elles s'inscrivent parfaitement dans le scénario et participent au récit. Soit elles l'anticipent, soit elles l'accompagnent, poursuivent les dialogues, les informations livrées par les personnages. L'accueil chanté fait à Dorothée par les Munchkins est certes féerique, drôle, mais le contenu des morceaux raconte, dit ce qu'ils ressentent et ce qu'ils doivent à la jeune fille. L'injonction « Follow the yellow brick road » suit la route pavée de briques jaunes. Plusieurs fois scandée par les nains à Dorothée, amorce la chanson. L'étrange façon de parler des Munchkins, d'ailleurs, place la parole dans un entre-deux. Leur voix est très déformée. Plus tout à fait le parler et pas encore le chanter. Donc tout le monde chante dans « Le magicien d'Oz » ou presque. Le magicien ne pousse aucune chansonnette, mais on y prêtant bien attention. Son phrasé, son débit de voix, ses modulations sont très musicales, du moins dans la version originale. Il suffit de revoir la scène de remise des médailles ou les adieux en ballon pour le vérifier. La méchante sorcière, en revanche, ne possède aucun attribut digne de lui permettre de s'exprimer en chanson. Chanter n'est pas donné à tout le monde, et seuls celles et ceux qui aspirent à la félicité, au bonheur, le peuvent. Généralement, dans les films, notre croyance dans la fiction doit être respectée. Par exemple, sauf revendication distanciée voulue par le réalisateur, un acteur ne doit pas regarder la caméra ou s'adresser au spectateur, sous peine de rompre un pacte, celui de nous faire croire vrai, ce que pourtant nous savons faux au fond de nous-mêmes. Pourtant, ce pacte échappe à la présence d'une chanson. Dans un film, cela pose moins de soucis de vraisemblance qu'un anachronisme ou le mauvais jeu d'un acteur qui risque de nous déconnecter de la fiction. Comme si chanter ou entendre chanter est une action naturelle qui appartient à notre quotidien, au même titre que la parole. Dans beaucoup de films musicaux, la question de la source sonore ne se pose pas. C'est le cas du Magicien d'Oz. Le spectateur accepte donc que soudainement, sans préalable, Dorothée, Glinda, les Munchkins se mettent à chanter. Over the Rainbow, Follow the Yellow Brick Road, We're Off to See the Wizard, ou les variations des morceaux des trois compagnons de Dorothée, nous arrivent sans prévenir. Mais tout est étroitement lié à ce qui est raconté. L'expression « ligne mélodique » est parfaitement appropriée à l'air commun que partagent l'épouvantail, l'homme en fer blanc et le lion peureux. Si seulement j'avais un cerveau, si seulement j'avais un cœur, et si seulement j'avais du courage. Ces trois-là ne font qu'un, et c'est peut-être pour cela qu'ils partagent la même chanson. La même mélodie les rassemble. L'histoire va prouver qu'en s'unissant, les trois compères seront complémentaires, et surtout que, comme Dorothée, ils possèdent déjà ce qui semble leur manquer.